Bienvenue à toutes et à tous. L'église Hosanna ainsi que toute son équipe a le plaisir de vous accueillir. Nous espérons que vous passerez un agréable moment à l'écoute de ce message audio présenté par le pasteur Bruno Picard. L'ensemble de l'équipe vous remercie de votre visite et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute.
Ce soir, je m'adresse, dit Dieu, au pasteur Dorothée Raggia qui est à Paris, dont le mari, le général Sévérage, est parti il y a quelque temps de cela. Et Dieu te dit, ma fille, tu as bien fait de reprendre le flambeau. Et tu as bien fait, ma fille, d'accepter la responsabilité qui est la tienne aujourd'hui. Nombreux sont ceux et celles qui ne te comprennent pas. Nombreux sont ceux et celles qui t'accusent d'avoir trop d'ambition et de simplement récupérer la situation laissée par ton mari. Mais c'est faux, dit Dieu. C'est moi qui t'approuve. C'est moi qui t'ai approuvé. Et c'est moi qui vais prouver aux autres que j'ai mis ma main sur toi. Et ce soir, pasteur Dorothée, Dieu te dit que sa main est sur toi. Et qu'il établit ce soir ton ministère, non seulement comme une enseignante de la parole de Dieu, mais aussi comme une prophétesse, une prophétesse de la parole de Dieu. Ce que tu vas dire dans les semaines à venir auront un impact dans mon pays francophone et bien au-delà. Ne t'arrête surtout pas, dit Dieu, car ma main est sur toi. J'ai commencé une œuvre depuis le départ de ton mari qui m'a rejoint et qui a rejoint la nuée de témoins et qui crie et qui soutient les hommes et les femmes de Dieu qui l'a formé et les hommes et les femmes de Dieu qui l'ont écouté, dont maintenant mon serviteur à La Réunion en fait partie. Il y en a beaucoup dans ce lieu ce soir. Mais j'ai commencé une œuvre avec ton mari et avec toi et je la poursuivrai, dit Dieu. Nombreux sont ceux et celles qui pensent que tu n'as pas les épaules. Mais si tu réfléchis bien, aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu n'a les épaules. C'est moi qui les soutiens par ma main puissante. C'est moi qui les tiens dans le creux de ma main. Et tu as toute mon attention, pasteur Dorothée, dit Dieu. Tu as toute mon attention, ma fille. Tu as toute mon attention maintenant même. Et ton église a toute mon attention. L'ennemi a essayé dernièrement de mettre la division et de faire fuir des dizaines et dizaines d'hommes et de femmes. Et ce soir, tu te dis, je vais faire en sorte qu'autour de toi, il y aura non pas une équipe, mais une équipe soudée. Une équipe d'hommes et de femmes que tu pourras appeler et regarder dans les yeux en disant, tu es mon frère, tu es ma sœur, dans le sens grec du terme, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont sur le front avec toi, pas des hommes et des femmes qui te traitent de pasteur ou de sœur comme ça par bienséance. Je te parle ce soir, ma fille, des hommes et des femmes que tu as demandé. Dieu dit, je vais t'amener des soldats, des femmes et des hommes de Dieu qui vont amener l'église de Paris, celle dont tu as la responsabilité aujourd'hui, à une autre dimension nettement plus grande. Sache que ce soir, cette parole est claire pour toi, ma fille. Tu ne dois pas baisser les bras, ni jamais plus regarder en arrière, car j'ai mis en toi le futur d'une grande partie de l'armée de Dieu en France, et tu feras partie des Déborah et des femmes de Dieu de ma parole. Tu fais partie de celles que je vais élever pour le temps à venir. Oui, il y a eu des erreurs. Oui, il y a eu des échecs. Mais tout cela, ma fille, n'était qu'une préparation. Le manteau qui était sur ton mari repose maintenant sur toi plus que jamais. Et une double portion du général qui m'a rejoint repose sur toi. Dans les semaines et les mois à venir, alors que tu te tiens dans la présence et que tu te tiens dans ma parole, tu te tiens dans la prière, j'élèverai ton niveau d'autorité et ton niveau d'influence et tu sauras que dans le monde francophone et ici à La Réunion, tu as une église qui prie pour toi, pasteur Dorothée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le monde du bien fort. N'ai-je pas dit ce soir, dit Dieu, ne t'ai-je pas dit que c'est moi qui contrôle la destinée de ton pays, de ta nation, et que le temps vient, dit Dieu, où la déesse raison n'aura plus raison, et le temps vient, dit Dieu, où les hommes et les femmes de mon esprit prendront place dans cette nation. Le temps vient, dit Dieu, et il est déjà venu, où les adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité manifesteront la puissance de mon esprit et manifesteront la puissance de ma vérité. Et ce soir, dit Dieu, j'ai trouvé dans ce lieu une plateforme de laquelle ma parole, comme une épée à double tranchant, se manifestera avec puissance. Oublie jamais mon ami, oublie jamais mon église, oublie jamais ma fiancée et mon épouse, que ma parole dans ma bouche a autant de puissance que ma parole dans ta bouche. Ne t'ai-je pas dit que les têtes d'affiche changeraient? Elles ont changé, dit Dieu. Mais ce n'est que le début, dit Dieu. Les hommes et les femmes qui siègent maintenant même aux plus hautes autorités de la nation ont fait un pacte avec la déesse raison. Et pour l'instant, dit Dieu, pour l'instant, ce sont les francs-maçons qui semblent avoir raison. Ce sont les francs-maçons qui ont pris la place d'autorité, dit Dieu. Mais Dieu dit, je prépare un coup d'État. Et ce coup d'État n'arrivera pas comme tous ceux et celles qui l'attendent. Ce coup d'État arrivera d'une façon toute particulière, car je ne vais pas renverser les hommes en autorité. Non, je vais renverser leur raison. Et Dieu dit, je ne vais pas chasser leur vie de ma nation. Je vais chasser leur péché de leur cœur. Et Dieu dit, c'est mon église qui montrera quel genre de Dieu je suis. Dieu dit ce soir, je prépare un coup d'État comme jamais cela n'est arrivé. La France est sur le point de ressusciter, dit Dieu. Ne t'ai-je pas dit, mon épouse, que les têtes d'affiche auraient changé? Et ce soir, je déclare que non seulement les têtes d'affiche vont changer et ont changé, mais je te dis également, mon épouse, que les cœurs vont changer. Amen. Par la puissance de ma parole. Car j'ai enfin trouvé un peuple qui entend ma voix, et le peuple qui entend ma voix peut devenir ma voix. Le peuple qui n'entend pas ma voix ne peut pas devenir ma voix. Tu vois, mon église, le problème, c'est que le diable peut tenter le pécheur par le plaisir du péché, mais il tente le chrétien par le mérite de la loi. Mais Dieu dit, je ne veux pas, je ne veux plus, je ne veux pas de la loi dans mon église, je veux celle de mon esprit. Les orgueilleux célèbrent la loi, mais les humbles célèbrent la grâce. Et ce soir, Dieu dit, je vais établir mon trône de grâce dans mon église, alors que tu m'adores, église, ce soir. J'ai trouvé un peuple en qui je peux avoir confiance. Un peuple dont je suis fier de te rappeler leur Dieu. Dans les semaines qui vont venir, le coup d'État que tu verras sera un coup d'État qui va te toucher, mon église. Car tu verras que je ne vais pas détruire les hommes en autorité. Je vais construire leur cœur selon mon cœur. Car ils vont entendre ma voix. Et ma voix, ce sera toi. Tu es ma voix. Tu es mon espoir. Tu es ma voix, dit Dieu. Tu es l'espoir que je vais manifester en France. Écoute bien cela, Église. Dans les 3 ans qui viennent, oui, je vais secouer. Je vais secouer la France. Mais pas comme tu le crois. Ne confonds pas les œuvres de l'ennemi et les œuvres de mon esprit. L'ennemi secoue les nations pour les détruire. Le Seigneur, moi, dit le Seigneur, je secoue les nations pour les construire. L'ennemi va secouer les nations avec la crainte, les désillusions, les peurs, les soulèvements, les critiques. Mais moi, je vais soulever ma nation. Je vais secouer ma nation, dit Dieu, ta nation, l'Église en France. Par la voix prophétique qui construit, qui édifie, qui élève, qui encourage. Le diable va placer une culture de l'horreur, mais moi, je placerai une culture de l'honneur. Es-tu prête, mon église, à courir avec moi? Es-tu prêt, mon peuple, à être ma voix? Cours avec moi, sois ma voix. Deviens celui ou celle, dit Dieu ce soir, qui rayonne lorsque les ténèbres font rage. Mon église sera la lumière du monde. Je vois maintenant, même où je vous parle, je vois des centaines de lumières prendre position là où les ténèbres font rage. Dieu dit, tu n'es pas un peuple de confusion, tu es un peuple de révélation. La révélation balaye la confusion. Les religieux célèbrent la loi, mais les humbles célèbrent la grâce. Dieu dit ce soir à mon peuple, écoute, les têtes d'affiche ont commencé à changer, mais je vais aller plus loin. Parce que je trouve ce soir une église qui prie, qui intercède. Je vais non seulement changer les têtes d'affiche, je vais changer les cœurs. Je vais changer les cœurs. Et ce soir, je déclare, dit Dieu, la France va ressusciter de ses cendres. Alléluia! Oh, mon épouse, ce soir, tu me demandes, mais comment vas-tu faire cela, Seigneur? Comment vas-tu le faire? Car Dieu dit, je ne fais rien. Rien sans le révéler d'abord à mes serviteurs les prophètes. Et ce soir, je parle à mon église, je parle à mon épouse, non seulement ici à La Réunion, mais je parle à tous ceux et celles qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit. Comment vas-tu faire cela? Tu me demandes, église, c'est très simple. Je vais envoyer des groupes de forces spéciales de service. Des hommes et des femmes qui vont prendre leur rue et leur quartier et leur communauté par l'amour et le cœur de serviteurs. Et les hommes levés à l'autorité vont se dire, comment ça se fait qu'avec aucun soutien financier de l'État français, vous arriviez à avoir un impact dans la communauté? Et vous direz, c'est parce que Dieu règne, c'est parce que Dieu est là, c'est parce que Dieu aime, parce que je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Dieu dit ce soir, église, es-tu prêt à courir avec moi? Es-tu prêt à être ma voix? Église, es-tu prête à être ma voix ce soir? Le temps est venu pour l'église d'être la voix de Dieu. Le temps est venu pour l'église d'être la voix de Dieu. Et pour être la voix de Dieu, il faut avoir un message. Et vous avez déjà un message. Seul celui ou celle qui passe du temps avec Dieu a une histoire à raconter. Regarde ton voisin et dit ce soir, je veux avoir une histoire avec Dieu. Romains, chapitre 5, verset 17 nous dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Rien que là-dessus, nous pourrions passer 55 ans. Paul dit ici, la mort a régné à cause d'un seul homme, mais grâce à un seul homme, ceux qui règnent avec Christ le font dans cette vie. Je ne suis pas appelé à régner quand je suis mort, je suis appelé à régner quand je vis. Et la Bible parle ici, il dit, si la mort a régné, dès l'instant où tu reçois la grâce de Dieu, écoute ça, dès l'instant où tu règnes en Christ, tu reçois l'abondance de la grâce et le don de la justice. Tout le monde dit abondance. Abondance de la grâce. Tout le monde dit le don de la justice. Si tu as une Bible, ce que j'espère, emmène ta Bible à l'église. Ceux qui n'ont pas de Bible à l'église sont des hommes et des femmes qui n'ont pas d'armure. Dans la prophétie, je me suis entendu dire de la part de Dieu que si je règne avec Dieu, le diable est à sa place. Et si je ne règne pas avec Dieu, le diable prend ma place. C'est très extrêmement puissant ça. Dès l'instant où l'Église règne, le diable est forcément à sa place, ne peut plus rien faire, ne peut plus rien dire, il est sous tes pieds. Mais si tu ne comprends pas comment régner avec Dieu, tu subiras ses attaques. Montre-moi ton lieu secret, je te dirai exactement qui tu es. C'est le lieu secret du chrétien qui révèle qui tu es vraiment, rien d'autre. Pas ce que je prêche, pas mon message ce soir, même pas mes prophéties. Ce qui révèle réellement ce que je suis, c'est le lieu secret, le temps que je passe avec mon Père. Ça fait une différence dans la vie d'un chrétien. Le diable n'a pas peur des prédicateurs. Il n'a pas peur même des prophètes. C'est quand un titre. Il n'a pas peur des musiciens. Il n'a pas peur des évangélistes, des curés. Il n'a pas peur des diacres. Il n'a pas peur. Il a peur d'un chrétien qui prie. C'est sur mes genoux que je dépasse celui qui court sur ses pieds. Sur mes genoux, je vais beaucoup plus loin. Tout le monde dit à son voisin, quand tu règnes en Christ, tu mets le diable à sa place. Je demande à Guillaume, écris-moi un chant là-dessus, mon ami. Écris-moi un truc là-dessus. Comment on était béni par Guillaume ce soir? Amen. C'est très, très puissant. C'est très puissant. Ce qu'il disait, c'était un message en lui seul. Vous connaissez Abraham? Qui connaît Abraham, personnellement? Abraham n'était pas un homme parfait. J'ai rigolé qu'Abraham aujourd'hui, j'aime bien passer du temps dans la parole de Dieu et lire ce que Dieu me montre. Et Dieu me dit, va voir Abraham. Et je vais aller voir Abraham pour poser quelques questions à Abraham. Abraham était vraiment un cas spécial. Abraham est appelé par Dieu à l'âge de 75 ans. Et il entend la voix de Dieu et, alors qu'il habite en Ur des Chaldées, qui signifie danse avec les démons. Et Dieu lui parle. Et sa femme à l'époque, âgée de 65 ans. Et on trouve l'histoire dans Genèse chapitre 12, ce soir rapidement, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille, ta maison, de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Notez que Dieu ne lui dit pas, va dans tel pays, il ne lui dit pas où il doit aller. Il dit, je te montrerai sur le chemin. Toi, tu quittes tout, tu abandonnes tout et tu commences une nouvelle histoire. Celui et celle qui est capable de raconter une nouvelle histoire, c'est celui et celle qui est capable d'abandonner ce qu'il y a dans le passé. La voix de Dieu cette année en France ne peut pas être du réchauffé. Il faut que ce soit quelque chose que je vis aujourd'hui. Verset 2 nous dit, je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important, comme si les chrétiens ne peuvent pas être importants. Dès que tu dis je suis important, tu es orgueilleux. Ce n'est pas vrai. Si Dieu fait de toi un homme important, tu es important. Par contre, si tu es orgueilleux, tu seras plus important très vite. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Mes amis, vous et moi, nous sommes appelés à être une source de bénédiction, pas une source de malédiction. L'Église est appelée à être une source de vie, de joie, de paix, d'amour, de puissance. Les gens peuvent trouver de l'aide n'importe où, mais la paix dans le cœur ne se trouve que dans la présence de Dieu. Et l'Église porte la présence de Dieu. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui t'outrageront. Je me répète à la place de celui qui est contre moi. C'est pour ça que Dieu dit, bénis ton ennemi, bénis-le. Tous les peuples de la terre, tout le monde dit tout. Tous les peuples de la terre, y compris les Réunionnais, seront bénis à travers toi. Un homme. Genèse 12. J'aime ce gars-là. Verset 10 nous dit, une famine survient dans le pays. Alors Abraham se rendit en Égypte pour y séjourner quelque temps car la famine sévissait dans le pays. Dieu l'amène dans un pays, Dieu dit va dans un pays, il s'arrête dans un pays et dans le pays dans lequel il se trouve, il y a une famine. Seigneur, c'est vraiment toi ou pas? Je comprends pas, je t'ai écouté, je t'ai suivi, il y a une famine. Comme si Dieu est limité par une famine. Aïe, aïe, aïe. Lorsqu'il approche de l'Égypte, il dit à Sarai, sa femme, écoute, je sais que tu es très très belle. Elle a 65 ans, la femme. Il n'y a pas de L'Oréal, là? Là, c'est du pur bonheur. Hein? C'est la grâce de Dieu qui maintient fraîche. Tu sais, si tu comprends ce soir que tu es la race d'Abraham, tu peux rester jeune, beau et belle, longtemps. Sans médicaments. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront en vie. Verset 13. Dis-leur donc que tu es ma sœur. Abraham, que tu es ma sœur pour qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. Le gars est en mission pour Dieu, dit à sa femme de mentir. Il est très spirituel. Pour quelle raison il dit ça ? Pour qu'il meure pas. Le gars ne dit pas « Dieu m'a dit rien, pour que je ne meure pas, s'il te plaît, mens au gars. » Verset 14, « En effet, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquaient la grande beauté de sa femme. » 65 ans, réfléchissant. Je vous rappelle que Pharaon n'était pas né de nouveau, il n'a pas regardé la beauté spirituelle de Sarai. Il l'a maté avec ses deux yeux. Dieu a fait « Ouh, waouh !» Depuis quand les hommes dans la chair regardent la beauté de l'esprit ? Donc Sarah devait être belle. On me suit ? En effet, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent la grande beauté de sa femme, verset 15, des gens de la cour de Pharaon la remarquèrent et la vantèrent à leur maître, de sorte qu'elle fut enlevée et emmenée au palais royal. Verset 16, à cause d'elle, le Pharaon traita Abraham avec bonté. Écoutez comment Dieu agit, hein ? Le gars ment ! Il ment ! Pour se protéger. Et Dieu le bénit quand même. Moutons, chèvres, bovins, ânes, des serviteurs, des servants, des ânes, des chameaux. Le gars quitte un pays un petit peu. Il fuit une famine, il rentre dans un nouveau pays, il ne connaît personne. Il ment aux chefs de la nation. Dieu le bénit quand même. Restez avec moi. N'allez pas avant la fin de la réunion, vous allez tout comprendre. Verset 17. Mais l'Éternel infligea de grands maux au Pharaon et aux gens de sa maison à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon fait venir Abraham et lui dit, mais pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était ta femme? Et quand il se rend compte, il dit, toute ma maison est maudite, il y a un problème, c'est depuis que j'ai fait entrer cette blonde-là, je suis cuit, quoi. Blonde ou brune, je ne sais pas ça, peut-être qu'elle était brune d'ailleurs. Pourquoi l'as-tu présentée comme ta sœur? À cause de cela, j'en ai fait ma femme. C'est chaud. Maintenant, va à ta femme, reprends-la et va-t'en, je t'en supplie, casse-toi. Verset 20, « Et le Pharaon chargea ses gens de la reconduire avec sa femme, avec tout ce qu'il possédait. » Dieu dit à Abraham, « Je te bénirai, je fais alliance avec toi, je te justifie, je te fais alliance avec toi. » Écoutez bien ça, hein. Dans Romains 5, on a dit tout à l'heure que la parole de Dieu était claire, il disait que celui qui règne avec Christ a d'abondantes grâces et le don de la justice, il a été justifié. Alors on voit Abraham, qui est l'exemple type dans l'Ancien Testament, et Dieu lui dit, je te bénirai, je te fais alliance avec toi, je te justifie. Écoutez bien ça. Hein. Est-ce que vous croyez qu'Abraham est un homme de Dieu? Oui ou non? Ah les gars, heureusement, vous allez perdre la foi malgré tout, le gars est dangereux. Quoi. Est-ce que tu crois qu'Abraham va apprendre sa leçon? 20 ans passent. On retrouve Abraham en Genèse 20. Sarah a maintenant 85 ans, elle est encore plus vieille. Mais elle est toujours aussi belle. En parlant de sa femme Sarah, il disait, c'est ma sœur. De sorte qu'Abimélec, un autre roi, qui n'est pas chrétien, philistin, le roi de Guérar, la fit enlever. Le bouc n'a pas pris sa leçon. Le bouc n'a pas compris que Dieu, c'est par sa bonté qu'il t'amène à la repentance. Le gars dit, Seigneur, j'ai fait une fois, deux fois, c'est pas grave, ça marchera quand même. Il est ami de Dieu, ça fait 20 ans qu'ils prient ensemble, ils se connaissent, Dieu le parle tous les jours. Écoutez ça. Mais Dieu visita Abimélec de nuit en songe et lui dit, t'es un homme mort. Et imagine, si moi je viens te voir, je te dis tu es un homme mort, tu vas me dire, ouais, essaye. Et si Dieu vient te voir, et tu vas mourir, tu peux flipper. T'as le droit d'avoir peur, c'est Dieu. Il vient et dit, tu vas mourir à cause de cette femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Notez que Dieu parle aussi au roi philistin non chrétien. Ne limitez pas Dieu. Or, Abimélec ne s'était pas encore uni à elle, gloire à Dieu pour lui. Il s'écria, mon Seigneur, frapperais-tu des innocents? Que je lui sache, Seigneur, tu ne te trompes pas de personne, hein? Le gars qui est fautif, ce n'est pas ce roi-là, c'est Abraham qui a menti, qui a dit, tiens, prends ma femme, c'est ma sœur. Lui, tu ne lui dis rien, tu ne juges même pas, explique-moi, Seigneur. Et là, il m'a parlé, je dis, Seigneur, explique-moi comment tu peux ne pas juger un homme qui ment, qui met un autre gars dans la galère, et tu vas voir le gars, tu dis, toi, tu vas mourir. Dieu parle ce soir, écoutez ça. Verset 5, son mari lui-même ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, d'ailleurs elle-même l'a confirmé en affirmant, c'est mon frère, égal les deux. Abraham et Sarah, les pères de la foi, qui ont cru en Dieu, qui croient en Dieu, qui ont été justifiés par Dieu, écoutez ça, les gars, mentent. Le pauvre gars dit à Dieu, c'est en bonne conscience, avec mon innocence que j'ai agi ainsi, le gars, son cœur était intègre. Ça vous choque ces paroles-là? Moi, ça m'a choqué. Je disais, Seigneur, tu étais sûr que c'est la parole? J'ai lu plein de versions, j'ai vérifié dans l'hébreu, c'est ça. Verset 6, Dieu lui répondit en songe, je sais. Si vous connaissiez Dieu, vous seriez plus choqué par son verset-là. Moi, je dis, Seigneur, tu me casses. Dieu lui répondit, je sais, moi aussi. Je sais moi aussi que tu as agi en toute bonne conscience. C'est pourquoi je t'ai empêché de commettre un péché contre moi et je ne t'ai pas laissé la toucher. Je n'ai qu'à envie de dire comme ça. T'es paralysé, pauvre gars. Impossible. La femme a 85 ans, toute belle. Hein. C'est 7. Non, c'est, oui. Maintenant, on renvoie cette femme à son mari. Écoutez bien ça. Car c'est un prophète. Un prophète peut-il mentir? Tous ceux et celles qui jugent les prophètes en fonction de la... Comment on dit ça en français encore? L'exactitude, merci madame. L'exactitude de la prophétie commettent de grosses erreurs parce que des faux prophètes peuvent dire des choses vraies. On ne juge pas un prophète uniquement sur ce qu'il dit, on le juge surtout sur ses fruits dans sa vie. Un vrai prophète peut commettre des erreurs et être toujours un vrai prophète. Et un faux prophète, tu peux dire les choses parfaitement et restera un faux prophète. D'accord. C'est un prophète. Écoutez ça. Il priera pour toi et tu resteras en vie. Le gars n'a rien fait. Il voit une femme débarquer. Le gars lui dit, c'est ma sœur, tu la veux? Prends-la. Le gars prend la femme, lui dit tranquille. Hein, à l'époque, il est roi au harem, à tout le toutim. Et là, Dieu lui dit, c'est un prophète. J'ai fait une étude dernièrement à parole de Dieu par rapport à ce mot-là. Est-ce que vous savez que c'est la première fois dans la Bible que ce mot prophète apparaît? Là, Genèse 20. Le mot prophète n'avait jamais apparu avant. Donc Dieu est en train de dire, tu vois Abraham, parce qu'il marche en ayant la foi, écoutez bien ça, hein, parce qu'il a été justifié, non pas par son obéissance, il a été justifié parce qu'il a cru en moi. Parce qu'il a cru en moi, je le considère comme un prophète. Je vous rappelle qu'Abraham n'a jamais connu la loi, puisque Abraham était avant Moïse, et que c'est Moïse qui a donné la loi. Donc Abraham ne faisait pas de suivre la loi. Abraham croyait en Dieu avant la loi, avant Christ. Il croyait en Dieu, et la Bible dit dans Romains que Dieu lui a imputé, lui a donné sa justice à cause de la foi qu'Abraham avait en lui. Et parce qu'Abraham avait... Écoutez bien, c'est crucial pour l'Église. Quand Abraham avait la foi, Dieu a dit, t'es un prophète. Non seulement t'es un prophète, il a dit, il priera pour toi. Si tu ne lui rends pas, sache que tu mourras, toi et tous les tiens. Verset 8, rapidement. Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs, leur apporta toutes ces choses, et ces gens furent d'une grande frayeur, le pauvre gars. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Le pauvre gars, il dit, attends Abraham, là tu m'as mis dans la galère. Et Abimélec dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham explique, je me disais qu'il n'avait sans aucun doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père seulement, donc il justifie un petit peu, c'est un demi-péché, tu vois, je t'appelle menti quoi. Elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de ma maison, de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Le gars, c'est un spécimen. On va aller plus loin ce soir, il me fait rire Abraham. Quand j'arrive au ciel, je passerai 500 ans avec Abraham seulement. Écoutez ça encore une fois. Abraham, Abimélec, prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham. Encore une fois, écoutez ça. Abraham ment et Dieu continue de le bénir. Et lui rendit sa femme et Sarah. Écoutez ça, ça m'interpelle grandement. Je me suis dit, mais que veux-tu me dire ici? Et quand je priais, aujourd'hui pour l'Église, Dieu me dit, écoutez ça, dans Romains 5, la parole de Dieu disait, on peut lire ça bien pour moi, Romains 5, verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Tout le monde dit le don de la justice. Écoutez bien ce soir, donnez-moi encore, ça j'ai fini. Le don de la justice. Tout le monde dit le don de la justice. La justice, c'est quoi? La justice, écoutez ça, hein, c'est la position spirituelle de la personne qui est totalement acceptée par Dieu. Quand Dieu te regarde, il ne te voit plus toi, il voit le Christ qui est en toi. Ça, c'est la justice de Dieu. Dans l'époque de l'Ancien Testament, vous connaissez l'histoire, quand les hommes venaient apporter des animaux pour offrir en sacrifice pour le rachat et le salut de leur famille. Donc une histoire ou pas ? Ils emmenaient un agneau, un animal, et ils l'offraient. Le prêtre, le sacrificateur, ne regardait jamais la famille. Il ne regardait que l'agneau. Mais quand nous venons prier, au lieu de savoir que Dieu ne regarde plus moi ma vie de péché, il ne regarde que l'agneau. Quand je viens devant le trône de Dieu, je loue et j'adore. Quand je viens devant Dieu, Dieu ne me voit plus le pécheur que j'étais, il voit le racheté que je suis. Quand j'adore Dieu, je n'adore pas en disant « Seigneur, j'espère que tu m'aimes encore un petit peu, j'espère que tu voudras me bénir, j'espère que Dieu dit « Non, tu es le fils d'Abraham, tu es un enfant de Dieu, tu es justifié par la foi. » Et Abraham avait compris ça, mes amis. Écoutez ce soir, c'est une grande leçon d'Abraham. Abraham avait compris ça. Et je dis, Seigneur, comment ça se fait que tu as continué à bénir Abraham malgré le fait qu'Abraham a péché en mentant? Dieu a dit, parce que j'ai fait alliance avec Abraham et celui avec lequel je fais alliance, je ne peux pas rompre mon alliance. Ce n'est pas le péché qui va empêcher la grâce de se manifester. Bien au contraire, quand tu pèches, tu tombes dans sa grâce. Ce qui empêche le chrétien que nous sommes d'avoir un impact comme Abraham et de vivre la vie qu'Abraham avait, ce qui nous empêche d'avoir un plein accès à la puissance et à la majesté de Dieu, c'est que nous essayons toujours de mériter la grâce de Dieu. Nous essayons toujours d'être justifiés par nos propres œuvres. On essaie de dire, Seigneur, je mérite aujourd'hui, je mérite ta grâce. Non, Paul dit, c'est un don de justice. Tu es justifié, non pas parce que tu le mérites. Tu es justifié à cause ou grâce à la croix de Jésus-Christ. Ah, Église, Romains 3, 21 nous parle de ça. J'entends bien, mais écoutez ça. Mais maintenant, Dieu a révélé comme il nous déclare juste. Comment il nous déclare juste sans faire intervenir la loi ? Verset 22, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Oh, j'aime ça. Tous ont péché en effet et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, ils sont déclarés justes par sa grâce. Oh là là. C'est un don de Dieu. Un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Écoute ça, mon ami. Ce que Dieu veut dire ce soir, c'est prends exemple sur Abraham. Pourquoi Abraham est-il appelé le père de la foi ? Abraham a cru en Dieu, Dieu a fait alliance avec lui, et parce qu'il avait fait alliance avec Dieu, aucun de ses péchés ne pouvait détruire l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Le péché va briser ton intimité. Mais la loi va interdire à la grâce de se manifester. Celui ou celle qui vit selon la loi, celui ou celle qui vit selon la loi, essaye d'obtenir le don de la justice de Dieu, la grâce de Dieu, par ses œuvres. D'ailleurs, je lisais avec vous qu'Abraham a prié pour Abimélec, et si vous lisez chez vous le reste de l'histoire, dans Genèse 20, quand Abraham a prié pour Abimélec, Dieu avait tellement maudit la maison que la femme d'Abimélec ne pouvait plus avoir d'enfant. Quand Abraham a prié pour Abimélec, tout a été restauré. Écoutez bien ça. C'est le premier miracle, Pasteur Steve, c'est le premier miracle répertorié dans la parole de Dieu par un homme qui prie. Premier. Comme par hasard, c'est Abraham. Celui qui a compris que Dieu l'a rendu juste par la foi est qualifié pour les miracles. Et je me suis dit ce soir, Église en France, la raison pour laquelle nous ne voyons pas autant de miracles, c'est parce que nous essayons d'acheter les miracles. Nous essayons de mériter la grâce de Dieu. Nous essayons de mériter sa justice. On oublie que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. On oublie que le don de son amour, c'est sa grâce. Que je fasse plein de péchés, il m'aimera quand même. Que je fasse pas aucun péché, il m'aimera quand même. Rien ne peut changer son amour. Si je pêche, c'est parce que je n'ai pas compris justement que j'ai été racheté, justifié par son amour. Dans Romains 5, 17, qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit « ceux qui reçoivent ». Vous savez le verset Éphésiens 5, 18 qui dit « soyez continuellement remplis de le Saint-Esprit ». Et bien, dans le mot, dans Romains 5, 17, c'est le même sens. Reçoivent, ça veut dire soyez continuellement remplis. C'est-à-dire, recevez continuellement l'abondance de la grâce et du don de la justice. Recevez continuellement, tous les jours, chaque seconde que tu vis, dis Seigneur, je suis justifié, je suis racheté. Je ne viens pas devant ton trône en espérant gagner ton cœur. Je l'ai déjà gagné avant même que je naisse. Paul dit, alors que nous étions ennemis de Dieu, pécheurs, dans les ténèbres, il a envoyé son Fils. Oh là là. J'essaie de vous dire ce soir que lorsque j'ai compris cette vérité, ma louange change, ma prière change, mon intercession change. Je ne prie pas pour essayer de mériter la faveur de Dieu, je prie parce que j'ai la faveur de Dieu. Je ne dors pas, je loue pas, je n'adore pas parce que j'essaye de mériter d'être juste devant lui. Je prie pour être juste. Non, je prie parce que je suis juste. C'est une énorme révélation pour l'Église, frères et sœurs. Je ne prie pas pour les malades parce que, Seigneur, j'espère que je mérite. Le nombre de chrétiens qui n'osent pas prier pour les malades parce qu'ils ne pensent pas mériter la puissance de Dieu se trompent. La Bible n'a jamais dit, vous recevrez les récompenses spirituelles. Il a dit les dons spirituels. Qu'est-ce qu'un don ? Un don, c'est un cadeau. Tu ne mérites pas. Une récompense, tu dois la mériter, mais pas le don. Les dons spirituels sont donnés à n'importe quel chrétien qu'il ait une heure de conversion ou 100 ans de conversion. Écoutez ça. Le diable sait, écoutez ça, Église, le diable sait que le chrétien qui n'a pas la révélation de ce que Christ a accompli pour lui est une proie facile et tombera dans le péché. Et tout à l'heure, je me suis surpris en train de dire et prophétiser, et c'est une parole forte dans mon cœur ce soir. Le diable tente les pécheurs par le plaisir du péché, mais il tente les chrétiens par le mérite de la loi. Parce qu'il sait que s'il arrive à faire en sorte que les chrétiens vivent sous la loi, ils sont déconnectés de la grâce de Dieu. Et un chrétien qui est déconnecté de la grâce de Dieu ne peut pas célébrer sa justice, sa grâce, sa puissance, et ne priera pas avec puissance. Je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver. Je finirai là-dessus ce soir. Romains 4, verset 13, nous dit « Car la promesse... » Écoutez ça. Hein, « La promesse de recevoir le monde. » On dit « recevoir le monde. » La promesse de Dieu à l'Église, c'est recevoir le monde. En héritage. A été faite à Abraham, tiens, le revoici, et à sa descendance, non parce qu'il avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. Écoutez ça. Si le chrétien essaye de vivre une vie pour obéir à la loi, il annule les promesses de Dieu dans sa vie. Elles sont là, mais elles sont inaccessibles. Parce qu'aucune promesse de Dieu ne peut être accessible par la loi. Abraham était avant la loi. Tu me suis ? Et Abraham avait cru en Dieu. Parce qu'il a cru en Dieu, malgré ses péchés, Dieu a continué à le bénir, à l'honorer, à le soutenir, à marcher avec lui. Abraham est l'exemple type du chrétien qui croit en Dieu et qui ne se soucie pas de la loi. Puisque Abraham était avant la loi. Mais nous, l'Église, nous retombons dans ce défaut. Nous essayons de suivre un code de la loi, alors que nous devrions vivre par la grâce de Dieu. Verset 14 nous dit, en effet, écoutez ça, s'il faut être sous le régime de la loi pour avoir droit à cet héritage, alors la foi est sans objet et la promesse est annulée. L'une des raisons pour lesquelles l'Église a du mal à vivre la puissance de Dieu, c'est parce que vous et moi, parfois, au fond de notre tête, dans notre petit cœur, nous croyons que nous devons mériter sa grâce et sa puissance et son amour et sa joie pour participer. C'est faux. Dès l'instant où tu donnes ton cœur à Jésus et que tu crois en lui, tu es qualifié pour recevoir le don de la justice, de se tenir droit devant le trône de Dieu. Quand le diable te voit, écoutez ça, le diable te voit tel que tu te vois. Si tu te vois en dehors de la grâce de Dieu, tu es une proie facile pour lui. Si tu te vois face à Dieu, justifié par Dieu, soutenu par Dieu, encouragé par Dieu, rempli du feu de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, assis dans les lieux célestes en Christ, quand tu règnes avec Christ, le diable est à sa place. Galates 5, 4, c'est la bombe de la soirée pour moi. Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés de Christ, vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Extrêmement profond ce soir. Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste, alors que Paul disait plutôt dans Romains, il disait, vous avez reçu d'abondantes grâces et le don de la justice par la foi, régnez avec Christ. Et nous on dit, non, je règne, mais tu sais, je ne suis pas un bon chrétien, je mens. Oui, c'est clair, on peut faire plein d'erreurs comme ça et plein de péchés, mais si tu comprends qui tu es, tu pécheras moins. Parce qu'un prince ne pèche pas. Un fils de Dieu ne pèche pas. Celui qui ne sait pas qu'il est fils et qui se croit toujours serviteur va pécher. Mais si moi je suis un fils de Dieu, je veux honorer mon Père. Matthieu 27, verset 46. Vers 3h de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani ?» C'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Église. Dans tous les évangiles, Jésus-Christ n'a jamais appelé son Père mon Dieu. Jamais. Il disait mon Père. Mais sur la croix, Jésus n'était pas ou plus pour quelques minutes, quelques heures le Fils de Dieu. Il était le pécheur. Il était le péché personnifié. Et c'est parce que Jésus a crié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» que moi ce soir je peux crier « mon Père, merci de me bénir. » Arrêtons de bafouer, de matraquer la puissance et la grâce de Dieu qui nous a faite en sacrifice, en pensant que nous devons aider Christ à nous racheter. Est-ce que tu sais ce soir que tu es racheté ? Est-ce que ce soir tu sais que tu as reçu le don de la justice, c'est-à-dire que tu es juste devant Dieu ? Église, à La Réunion, on a du mal à comprendre ça. En France, c'est pareil. Les chrétiens pensent qu'ils doivent continuer à faire des efforts de la loi pour mériter la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu ne se mérite pas. Elle ne veut pas s'acheter. Et si vous et moi, nous voulons avoir accès aux bénédictions d'Abraham, qui sont pour vous et pour moi, Dieu a dit, vous allez hériter le monde, toi et tes descendants. Je suis un descendant d'Abraham. Oh là. Tu es un descendant d'Abraham. Abraham a été béni. Abraham avait une femme de 85 ans qui n'a pas besoin de L'Oréal, ni de crème anti-rides, ni de talc pour les bras. Elle n'avait pas besoin de passer 55 ans en thérapie d'algues vertes, même si c'est bien. Et une chose qui m'interpelle ce soir, je vais être franc vos soirs, église, je finirai là-dessus, je serai partir chez vous ce soir pour penser à ça. Il me semble que nous avons réellement besoin de revenir à ce que la parole de Dieu dit et d'y croire tout simplement. Parce qu'Abraham a cru en Dieu avant même qu'il ait la loi, avant même qu'il ait une Bible. Il a cru en Dieu. Et Dieu lui a imputé en justice, il a dit, donc tu vas être juste, je t'ai déclaré juste. Et en le déclarant juste, malgré ses péchés, Abraham est resté juste. Je ne sais pas ce soir si c'était clair, je ne suis pas sûr, parce que c'est un message qui est venu dans mon cœur, ce n'est pas facile à expliquer ce que Dieu voulait dire. Dieu veut dire en clair, en quelques mots, il veut dire, mon Église, tu règnes avec moi dès l'instant où tu comprends que tu as reçu l'abondance de la grâce et le don de la justification. Tu es juste devant mon trône, dit Dieu, par mon Fils qui en criant sur la croix en disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tu peux te dire maintenant même « mon Père, merci de m'avoir accepté. » Je viens de penser à une chose qui m'a touché encore. Comment on connaît, je crois que c'est Élie, je crois, qui se bat contre Baal. C'est Élie, hein. Écoutez ça, les amis. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir. Écoutez bien ça. Vous allez voir qu'à chaque fois, il fallait qu'un prêtre, un sacrificateur, fasse des sacrifices. Oui ou non ? Élie vient, il met les 12 pierres du peuple, du peuple d'Israël, il met les animaux sur l'autel, il met de l'eau, il remplit le truc d'eau et le jugement de Dieu tombe. Le feu de Dieu tombe et le jugement de Dieu consume tout. Oui ou non? Parce qu'à l'époque, le jugement de Dieu était plus grand que le sacrifice. Mais sur la croix de Golgotha, Jésus a pris tout le péché de tout le monde en lui seul. Parce que sur la croix, le sacrifice est plus grand que le jugement. Le sacrifice est plus grand que le jugement. Est-ce que tu comprends ce soir ce que Dieu est en train de te dire? Il est en train de te dire, arrête de regarder à tes péchés, regarde à ma grâce. Quand tu pèches, ne fuis pas loin de moi. Quand tu pèches, cours dans ma présence. Quand tu tombes, rappelle-toi, tu tombes dans mes bras d'amour. Ce n'est pas une licence pour pécher, c'est que franchement, celui qui est un vrai chrétien pèche de moins en moins. Parce qu'il sait que l'obéissance n'est plus la raison pour laquelle il veut, il existe. Non, l'obéissance n'est plus entre guillemets une racine, l'obéissance est un fruit. On me suit? J'obéis parce que c'est un fruit dans ma vie. Et pas j'obéis parce que je veux être un fils, parce que je suis un fils que j'obéis. Ce soir, regarde ton voisin et dis, tu es juste. Dis-lui, dis à ton ami à côté de toi, dis, tu es justifié. Regarde-lui encore, dis, tu es justifié. Ça veut dire, écoutez ça, que devant le trône de Dieu ce soir, tu es accepté. Tu as accès. Le voile est déchiré. Dieu a lavé nos péchés. Et quand je prie sachant qu'il m'écoute et qu'il est pour moi. Amen. Ce soir, s'il vous plaît, vraiment, nous avons quelque chose qu'on fasse, s'il vous plaît.